France Culture.
Profil du banni, n'être ni ceci ni cela, on l'a compris. Pour une œuvre, ne pas appartenir à une catégorie, à un genre, à une discipline, on l'a compris aussi. Arnaud Labelle rejoue, et pas d'erreur, c'est mauvais genre. Mauvais genre qui fait retour en ce samedi au MacVal, musée d'art contemporain du Val-de-Marne, basé à Vitry-sur-Seine, et ce pour y découvrir l'univers d'un rêveur définitif d'un passant considérable de l'art contemporain, le critique, historien et activiste intempestif Arnaud Labelle rejoue, à qui l'exposition « Voyez-vous ça ?» est entièrement consacrée et visite radio-guidée en compagnie de Céline Duchesnay, Nicolas Surlapierre, directeur du MacVal, et de l'immense Xavier Boussiron. Chronique en second temps d'émission, signée Céline Duchesnay et Sean Rose. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Mauvais Genre. Mauvais Genre en visite ce soir, on était au MacVal il y a quelques temps pour les faits divers, on y retourne pour un personnage peu commun de la critique et de l'histoire de l'art contemporain, je le répète, Arnaud Labelle rejoue. Alors, Céline Duchesnay est avec moi ce soir.
Bonsoir bien mon cher François.
Bonsoir, bonsoir. Une nouvelle, un fait, un événement.
Bon, vous voulez que je vous dise le titre de mon livre, Cabaret,
aux éditions
Michel Lafon.
Voilà, à ne pas rater, le populaire Sean Rose, qu'on peut maintenant retrouver sur une chaîne. Vous avez votre chaîne.
Oui, j'ai lancé une petite chaîne pour parler de mon vlog. Et c'est sur YouTube et ça s'appelle Du côté de chez Sean.
Voilà, la bonne littérature se trouve du côté de chez Sean. Alors maintenant, nous allons prendre la direction du MacVal. Mais avant cela, Céline, présentation pour ceux de nos auditeurs qui ne le connaîtraient pas encore, d'Arnaud Labelle rejoue.
Oh, on peut dire qu'il est à la fois artiste, écrivain, performeur, théoricien de l'art et qu'il a créé une œuvre très vaste depuis, je dirais, les années 80, qui mêle à la fois peinture et écriture, art et poésie, et surtout dont un des modes d'action est le collage, qui est absolument décliné sous toutes ses formes, que ce soit sous forme de montage, de cut-up, d'association d'idées, de mots, d'images à la marabout, bout de ficelle, en passant par du coq à l'âne d'ailleurs. Et c'est donc une pratique qu'il cultive, je dirais, avec un esprit joyeux, irrévérencieux, qui permet de mélanger les registres graves, drôles, absurdes, populaires, savants. Et puis, il ne faut pas surtout oublier son goût des mots. Alors, en guise d'apéritif, je pourrais vous donner quelques titres d'exposition. L'oignon fait la sauce, rien à branler des chiens, c'est écrit dessus. Ou alors de ses livres, alors mes préférés, Je suis bouleversée, Les gros cochons font de bonnes charcuteries, et plus récemment, vous l'avez cité François, LCDB, Le culte des bannis, dont nous allons reparler.
Absolument, c'est une coproduction MacVal et Centre Pompidou, le co-commissaire est Nicolas Surlapierre et Frédéric Paul qui est, on peut le dire,
qui est commissaire donc des collections contemporaines du Centre Pompidou.
Alors, Cap MacVal en compagnie donc d'Arnaud Labelle rejoue et de Xavier Boussiron. Bien, mauvais genre fait retour au MacVal. Nous étions déjà venus pour une exposition Faits divers. Et là, nous sommes peut-être pas si loin que ça, d'ailleurs, du fait divers, puisque l'exposition est titrée « Voyez-vous ça ?» avec un point d'exclamation. C'est ce qu'on peut dire à propos de certains faits divers. Bonjour, Arnaud Labelle rejoue.
Bonjour.
L'exposition, vous en êtes le commissaire, elle est entièrement consacrée à votre univers, à votre réflexion, à votre poésie propre. Alors on va la suivre, il y a trois temps, trois salles. D'abord le titre, comme ça. Voyez-vous ça ? Parce que c'est quelque chose qu'on dit quand on est confronté à un objet scandaleux. Enfin, voyez-vous ça ? Est-ce que c'est des manières ? Qu'est-ce que c'est que ce comportement ? Voyez-vous ça ? Et en même temps, ça définit bien le projet. Il s'agit de voir et de voir ce qu'on ne veut pas toujours voir.
C'est exactement ça. Alors la radio, évidemment, voyez-vous ça, c'est compliqué, justement. Donc on va essayer peut-être de décrire un peu. Mais c'est effectivement une interjection pour dire « Ah, c'est ça, c'est comme ça ». Et en même temps, ce qu'on voit n'est peut-être pas exactement ce qu'on voit, parce qu'il y a des feuilletages comme ça, il y a des associations, et il faut suivre soi-même, enfin je veux dire le visiteur, le regardeur, doit prendre le biais que je lui impose, mais qui permet d'aller ailleurs. Hein. Le regard est vraiment très important.
Alors nous serons tout au fil de cette exposition où je suis en compagnie de Céline Duchesnay. Bonjour Céline.
Bonjour François Angelier.
Exposition que nous visiterons en compagnie de Nicolas Surlapierre, le directeur du MACVAL et co-commissaire de l'exposition, et Xavier Boussiron.
Bonjour.
Et bonjour.
Céline.
Moi, j'aimerais bien partir des titres, parce que, en effet, François Angelier, vous l'avez dit déjà, le titre de l'exposition est énigmatique, voyez-vous ça. Et donc, dans cette exposition qui est composée en trois temps, qui n'est pas vraiment une rétrospective, puisqu'on suit aucune chronologie, on est happé par des mots qui sont comme des mystères. Par exemple, cette première salle dans laquelle nous sommes s'appelle très exactement LCDB, la salle suivante va s'appeler SMS, et la troisième salle, plus, avec une parenthèse qui peut peut-être nous aider, qui est Overmore. Donc pour moi, ce sont autant d'énigmes qu'il va falloir résoudre pendant cette émission. Donc quand on dit LCDB, moi je sais, parce que j'ai un petit peu travaillé, que ça veut dire le club des bannis. Donc nous sommes dans la salle du club des bannis, et la première chose qui m'interroge, c'est ce mot banni. Qu'est-ce qu'un banni, selon vous, Arnaud?
Oui, alors je vais répondre à la question, mais peut-être préciser en effet quand même ces trois salles, et celle-ci en particulier, le culte des bannis plutôt que le club des bannis, mais en même temps c'est un club, alors c'est vrai. Mais cette salle LCDB correspond à un livre que j'ai publié qui s'appelle Le culte des bannis, LCDB, qui serait en effet ces artistes dont le statut est instable parce que ils sont évidemment importants dans leur domaine, mais en réalité, leur influence est bien ailleurs. Elle traverse tous les champs de l'art, de la littérature, de la musique, etc. Et donc, cette première salle, c'est rappeler donc que ce culte des bannis, ce texte, en fait, est né d'actions, est né de choses live, comme on dit. Et donc, j'ai intégré dans l'exposition elle-même, au moment où elle a lieu, mais aussi, comme dans un cabaret d'ailleurs, dans un cabaret déserté, les traces de ce vivant. Alors les bannis, pour revenir au terme, je ne sais pas si je vais être très juste, parce qu'il est ambigu, le terme banni, il est peut-être trop fort peut-être pour ceux dont je parle, mais ce sont ces artistes qui, dans leur domaine propre, sont cultifiés, adorés, et quelquefois de façon trop grande. Ça devient des niches d'ailleurs, hein. Ça devient des artistes pour artistes, ou des artistes pour musiciens, ou des artistes pour cinéastes, etc. Mais ils sont quand même regardés d'un drôle d'air par ceux qui dominent dans leur propre domaine. Donc au départ, je suis parti sur des figures très connues, hein, qui sont Burroughs, William Burroughs, qui sont Jean-Luc Godard, qui sont indiscutables, John Cage, qui sont indiscutablement importants. Mais en même temps, par exemple, si on prend Burroughs, l'importance de Burroughs, elle est vraiment ailleurs que dans la littérature. Et quand on regarde les histoires littéraires contemporaines de la littérature américaine, il n'a pas la place de Hemingway, par exemple. Donc, voilà, ce mot banni est peut-être un peu fort, mais j'y tenais parce que je me suis rendu compte, en vieillissant sans doute, que ce sont ceux qui m'ont effectivement nourri, et en même temps, je suis un peu de ceux-là aussi. C'est-à-dire que j'ai eu l'impression que mon propre travail n'était pas reçu par les gens de l'art totalement, mais pouvait être reçu par les gens d'à côté.
Alors les gens d'à côté, effectivement, c'est de eux dont il est question, puisque le banni, c'est celui qui n'est ni ceci ni cela, qui est ni dans une catégorie ni dans une autre, dans une espèce d'interzone fluctuante et mystérieuse, très, très mauvais genre. Nicolas Surlapierre, vous êtes un peu le MACVAL, c'est l'asile de nuit des bannis.
Oui, j'apprécie beaucoup l'expression. Alors moi, je donnerais aussi non pas une autre définition des bannis, mais la façon dont je me suis approprié ce LCDB. Et je pense que les bannis, évidemment, ce sont des artistes, quelle que soit la discipline, qui interviennent peut-être hors de leur champ. Mais c'est comment, finalement, lorsqu'on prend Burroughs, lorsqu'on prend Godard, on peut aussi le lire comme une grande théorie curatoriale. Et c'est une façon, par cette lecture-là, de pouvoir dépasser la théorie curatoriale habituelle, les grands commissaires d'exposition. Et je trouve que ça, c'est un aspect qui m'intéresse tout particulièrement.
Alors peut-être que parmi les bannis, Arnaud, vous avez dit que vous en faisiez partie, mais enfin il y en a un autre qui est à côté de moi, qui s'appelle Xavier Boussiron. Je crois que vous avez le droit à ce beau titre de banni. D'ailleurs, on voit un de vos portraits derrière moi. Donc, qu'est-ce que ça fait d'être banni, Xavier Boussiron?
Alors c'est un honneur, c'est trop d'honneur. Oui, mais pour prolonger ce que dit Arnaud, si c'est utile d'ailleurs, moi, je trouve qu'il y a aussi le terme d'apostasie qui est intéressant en termes d'une espèce d'esthétique apostate, en fait, qui cherche à quitter aussi une espèce de terrain repérable, traçable. Là, on est dans un lieu qui a à voir avec l'art contemporain, mais l'art contemporain qui est finalement une petite niche très, très, très minime et qui est dépendante de toute son histoire, de toutes ces répétitions de l'avant-garde qui ont été en fait des mythes qui sont pas meilleurs que les autres. Et l'idée de pouvoir être un peu sur la bordure de tout ça, mais même inconsciemment, rejoint peut-être ce terme de banni. Mais l'apostasie, c'est pas mal de se dire non, finalement, on arrête tout.
Cette idée aussi d'être hors la loi, de déborder, de pas être là où on vous attend.
Oui, mais hors la loi, ce serait aussi un terme, hors les lois, je dirais, hors les lois. C'est-à-dire, il y a les lois du marché, les lois des domaines en question, les lois. Et se sentir libre, en effet. Le banni, c'est celui qui se sent libre de ne pas être soumis à aucun des diktats qu'on nous impose, à nous artistes. Mais que la définition même de l'art, c'est d'être un insoumis. Enfin, pour moi, c'est ça. Hein. Donc, insoumis aux lois. Y compris, puisque vous avez souligné cet aspect au tout début, en disant qu'il y avait des mots, des phrases, des textes, y compris d'ailleurs que chacune des salles, le langage, ne pas être soumis même au langage, de jouer avec le langage, de se l'approprier.
On pourrait peut-être aussi décrire, François Angelier, la salle dans laquelle on est, parce qu'on ne sait pas trop où on est. Est-ce qu'on est dans une salle qui correspond à des lendemains de fête? Je vois des podiums, des drapés. Alors, évidemment, devant moi, je ne peux que le voir, un saint énorme, entouré de roses, presque un petit peu kitsch. Vous vous sentez dans quel type d'endroit, François Angelier?
Ah ben moi je me sens bien. Là c'est oui, c'est vrai, puisque on est vraiment chez les bannis, c'est-à-dire que rien n'est vraiment assignable. Alors il y a une photo de Xavier Boussiron avec une chemise hawaïenne. Donc déjà ça c'est un spectacle vertigineux. Il y a des grands masques qui font penser aux masques de la tragédie grecque, les Perses comme ça, ou les espèces de masques verts et rouges là. Le saint énorme entouré de roses qui me fait un peu penser au catalogue d'une célèbre exposition internationale du surréalisme, où il y avait un saint qui était en couverture. Là, il y a une tenture mauve. Il y a des photos. Alors, les photos... D'ailleurs, qui est... Pouvez-vous nous faire les honneurs? Je reconnais F.J. Ossan. Tout en haut, quel est cet homme étrange en noir qui est habillé un peu comme Judex?
Kim Follin.
Kim Follin, Carole. Merci. Oui, parce qu'ils sont dans les livres Le culte des bannis, donc c'est des échos. Mais c'était très juste, François, d'avoir repéré la couverture du surréaliste, puisque c'était Duchamp, évidemment, et ça s'appelait Prière de toucher, puisque c'était un saint en latex qui invitait ceux qui avaient en main le catalogue de toucher. Et cette pièce s'appelle aussi Prière de toucher, mais en jouant sur le terme toucher, être touché. Donc c'est une couronne mortuaire autour du saint. Ce qui fait que c'est un saint qui n'est pas si joyeux que ça, parce que c'est peut-être cancer du saint. Hein, c'est peut-être donc c'est de montrer effectivement que derrière l'image, il peut y avoir effectivement, ou derrière la pièce. Et ça fait partie, cette pièce, comme d'autres que vous verrez, comme peut-être les masques aussi d'une certaine manière, de pièces que je considère moins comme des sculptures que comme des emblèmes ou comme des blasons, voilà. Et donc, c'est comme si c'était des ready-made trouvés, mais qui ne sont pas trouvés, je les ai fait faire, mais qui correspondent à une vision détournée d'un objet, voilà.
Et les masques, qui ont un côté archaïque. Et...
Oui, voilà, c'est des masques. Oui, pardon, c'est des masques archaïques que j'avais un peu ridiculisés d'une certaine manière par leur sérieux et que mettant dans cette salle, je pensais mettre comme une un référence évidemment à mon intérêt pour la scène, hein, voilà, la scène, mais d'une façon un peu un peu trop majestueuse. Donc j'ai un peu ridiculisé en posant une sur des tréteaux et l'autre je sais pas si c'est apparent, mais je veux pas en faire quelque chose de grandiose.
Moi, j'en reviens sur cette impression de lendemain de fête. Nicolas Surlapierre, est-ce que vous avez le sentiment que le lendemain de fête est presque mieux que la fête elle-même quand on est ici, justement, dans cette salle ?
Oui, moi, pour moi, c'est un aspect qui me touche beaucoup. En fait, je trouve que c'est presque comme la chanson de Christophe. Il y a un côté un peu aussi de dancing désaffecté. Qu'est-ce qui se passe le lendemain, ou quelque chose qu'on est en train de démonter, pas simplement non plus dans la réalité des choses, du music hall, des dancing, mais aussi de ce que j'appelle, parce qu'on se raconte tous, et ça c'est ce qui est beau dans LCDB, on se raconte toute une histoire. Et pour moi, je l'ai appelé ici Silencio. Pour moi, c'est le club Silencio, jouant sur deux choses, cette espèce d'empreinte lynchienne qu'on a partout, qu'on est en train de démonter, exactement la scène du film de Silencio, qui ne va rien résoudre, on n'est pas là pour résoudre, et aussi parce qu'il y a une photo de Frédéric Jacossan, qui a une sorte de profil, ce qui m'amuse beaucoup, il ressemble à David Lynch. Et il y a ces espèces constamment, et c'est ce que j'aime dans cette exposition et dans toutes ces propositions d'Arnaud, c'est justement ces porosités. Constamment, nous glissons d'une image à l'autre, et pour moi, véritablement, c'est ce silence qui se fait avant le spectacle et surtout au lendemain du spectacle. Les deux masques de tragédie et de comédie appellent le troisième persona, hein, puisque c'est dans la tradition, c'est tout simplement le persona muta, c'est-à-dire le silence. Et c'est cet aspect constant entre silence et finalement performance que je trouve assez délicat dans la proposition, dramatisé avec ses vrais faux portraits art-court. Voilà, comment on peut d'une certaine manière synthétiser à la fois un monde qui n'est plus et à la fois un monde qui répond exactement aux questions qu'on peut se poser aujourd'hui dans le champ de la performance, dans le champ de cette espèce de porosité entre les différentes techniques, que ce soit la peinture, la sculpture, l'installation, la performance. Et donc il y a cet aspect des artés, moi ça me plaît beaucoup parce qu'on a voulu aussi une ambiance lumineuse très particulière, presque entre chien et loup. Et je voulais aussi rajouter une chose sur le prière de toucher. On pense beaucoup au toucher, à l'aspect haptique, mais moi je pense à une chose, il y a cette espèce de rose qui revient, cette espèce de bouquet de roses saint-sulpicienne autour de ce saint énorme. Dans prière de toucher, il y a prière. Et il y a aussi quelque chose qui est lié au culte et qu'on va trouver, ce balancement, ou j'allais dire ce chiasme permanent entre culte et occulte.
Et je vois là, en photo, l'étrange créature du Lagon Noir, Xavier Boussiron. C'est un peu ça la fonction de l'artiste, c'est d'être l'étrange créature du Lagon Noir qui sort de la vase pour étrangler le capitaine du bateau.
Exactement. Mais ce qui sort de la vase, c'est le spectacle permanent des émotions, en fait. Et je pense que ça c'est ce qui se passe ici. Et c'est les bas-fonds de l'émotion aussi qui se trouvent incarnés sous des formes assez disparates et qui ont toujours à voir, mine de rien, avec une vieille chose littéraire. Qui serait presque le terrain d'origine de tout cet arrangement, quoi.
Let us take you away from the heat of the day. We will dance by the light of the moon. Where the Bedouin play, caravanserai sway. We will slide down the side of a dune. And a mirage you'll see as you're dancing with me, of a spring that will never run dry. In the eye of a storm, we will party till dawn, till the sun strikes a tent in the sky.
Céline, continuons notre pérégrination dans le monde des bannis. Allons maintenant à la deuxième salle. Alors, première halte.
Oui, Je tiens à m'y arrêter parce que ça passe un peu, c'est un couloir un peu ici, donc on voit pas forcément. Et puis on ne sait pas de quoi il s'agit. C'est toujours des petites peintures. C'est, il n'y a qu'à les regarder, elles sont toutes très différentes. Mais
diabolique, criminal, oui,
voilà.
C'est le côté fumettine.
Oui, bah, exactement.
Côté giallo. C'est un homme en pantalon rouge, enfin en col en rouge, pardon.
Ou en squelette.
Voilà.
L'idée, ce sont des peintures que j'ai. C'est très bien de commencer par celle-là, d'ailleurs, parce que ce sont des peintures que j'appelle criminelles. Elles sont criminelles parce qu'elles ont été faites sur des toiles trouvées ou trouvées dans des brocantes ou même dans la rue. Et quand j'en trouvais une, je peins un sujet, n'importe lequel, ce qui me passe sur la tête, sans souci d'ailleurs de faire une grande œuvre ou une bonne peinture, simplement m'amuser à tuer un tableau préexistant. Toutes ces œuvres étaient d'abord faites par un autre artiste que j'ai tué en peignant sur sa peinture. Alors ce sont des anonymes. Alberola m'avait dit « je vais te donner une peinture pour que tu me la peignes », mais il ne me l'a pas donnée et je crois que j'aurais hésité à le tuer. Mais j'aime bien l'idée quand même de ce geste qui semble anodin mais qui est important quand même. On tue les peintures en peignant sur les peintures, voilà.
C'est pour ça qu'elle s'appelle peinture criminelle, voilà. Tout simplement.
Peinture assassine. Nous allons tuer l'art, en commençant d'abord par tuer les artistes et tuer leurs œuvres. Alors, deuxième salle, alors là, c'est le vertige, le carrousel, le tournoiement. 365 collages réalisés jour après jour pendant une année, j'imagine, et qui sont là, donc qui sont prêtés par le Centre Pompidou et qui représentent une forme d'ascèse, puisqu'on parlait de prière à côté, une forme d'ascèse, mais d'ascèse à la Belle Rojou, c'est-à-dire assassine aussi.
Et riche aussi. C'est-à-dire qu'en fait, la 16, elle existe. Je me suis fait piéger moi-même. Puisque quand j'ai commencé les collages, je me suis dit, voilà, c'est une bonne idée de faire un collage par jour. Mais au bout d'un certain temps, je me suis rendu compte que c'était très contraignant quand même. Les journées en 24 heures, comme disait le président Pompidou, mais le problème, c'est que on commence le matin, on se dit, il faut que je fasse le collage. J'ai une pile de journaux, j'ai des trucs. Je suis à l'étranger, il faut que je fasse le collage. 23 heures, je me dis, tiens, j'ai pas fait les collages, il faut vraiment que je m'y mette. Qu'est-ce que je vais faire? Alors, il y en a qui sont plus ou moins inspirés, entre guillemets. Il y en a qui sont très travaillés, parce que j'ai peiné toute la journée à faire quelque chose d'un peu satisfaisant. Et à l'arrivée, ça ne l'est pas forcément. Et puis, il y en a qui sont sortis comme ça, qui sont faits en 5 minutes. L'idée, c'est qu'effectivement, ça fait un déroulé. Ça fait un déroulé et ça fait quelque chose d'autre que l'instant T où j'ai fait le collage. Ça fait un espèce de saisissement simultané comme ça de 365 instants. Voilà.
Alors on peut peut-être rappeler le titre de cette œuvre qui est aussi le titre de la salle, ce fameux SMS que je disais tout à l'heure. Alors il y a peut-être un début de réponse sur la signification de SMS. C'est le premier collage que vous avez fait, Stop Making Sense. Est-ce que ça veut dire que tout visiteur qui entre dans cette pièce est amené à peut-être picorer comme ça, à aller d'un collage à un autre, ou alors est-ce qu'il faut vraiment avoir une lecture très stricte, très linéaire jour après jour, pour passer de votre coq à l'âne et faire une sorte de voyage dans votre cerveau?
Oui, c'est, en fait, ça s'appelle Stop Making Sense, parce que c'est le fait que, lorsque j'ai fait le premier collage, par exemple, c'est pour ça que j'ai titré dessus, comme souvent, je titre directement l'œuvre dessus. Je me suis dit, mais ce que j'ai associé là n'a strictement aucun sens. Mais pourquoi en donner un? C'est ce que l'on voit, c'est l'instantanéité de tout ce qui est simultanément dans l'image. Alors, en même temps, l'évidence, c'est que ça donne du sens. On peut dire ça n'a pas de sens, et en même temps on s'est dit, tiens, il y a Ava Gardner, une armure, alors peut-être que c'est en réfléchissant, peut-être que ça... Donc ça veut dire que chaque regardeur peut trouver un sens. Moi je n'en ai aucun a priori, donc Mais quand je dis stop making sense, arrêter de donner du sens, c'est arrêter de donner un sens unique, un sens a priori. À chaque fois que je me mettais à faire un collage, à part une ou deux, un ou deux où j'ai peut-être d'une certaine manière un peu triché, parce que il y a par exemple cette image où on voit Jean-Pierre Melville à un moment donné avec des lunettes de soleil et une image d'un film noir avec un chapeau et des lunettes de soleil, je me suis dit, ah tiens, j'avais dans ma pile de journaux l'image de ce film qui venait de la brochure de la Cinémathèque que j'avais vu quelques jours auparavant. Et donc, quand j'ai trouvé la photo de Melville, je me suis dit, ah, chapeau plus lunettes égale Jean-Pierre Melville. Là, ça m'a paru évident. Mais en général, je commençais un collage, je ne savais absolument pas ce que j'allais faire. C'était jamais indexé à l'actualité, jamais, sauf une fois. C'est au moment de l'Ukraine, le drapeau que vous voyez bleu et jaune, évidemment, c'est l'Ukraine. Et c'était le jour de l'enrichissement, mais je ne l'ai pas fait exprès. C'est-à-dire que nous étions en Bretagne avec ma compagne et on cherchait pour acheter du papier de couleur. Il y avait deux couleurs, le jaune et le bleu. Et le soir, j'ai fait mon collage avec ce que j'avais, et on apprend l'enrichissement de l'Ukraine. Alors là, c'est un hasard objectif, comme on dit, très curieux. Mais en général, il y en a pas. Il n'y a pas de, il y a rien qui justifie quoi que ce soit en réalité.
Alors on est tout contre. Vos collages, Arnaud Labelle-Rejoux, donc on va un peu, l'œil se promène, je vois Marcel Errant dans Les Visiteurs du Soir dans le rôle de Lassner, mmh. Bonjour monsieur, je vois qui d'autre, je vois aussi monsieur Bertin par Ingres, là, qui est le fondateur du Journal des Débats, l'incarnation de la bourgeoisie du 19e, mais il est à côté d'une dame qui ressemble plutôt à Betty Page, donc là aussi c'est le choc des contraires. Il y a l'assassinat de Harvey Oswald par Jack Ruby, là aussi. Là, vous êtes rattrapé par une actualité, mais c'est plus la même. Il y a comme ça des figures emblématiques du XXe siècle. La Boyce, si je ne me trompe pas. Là, il y a aussi des danseurs. Il y a des, bon, d'une certaine façon, on voit que vous travaillez à la fois sur, je dirais, le patrimoine, ou au moins la mémoire populaire, et puis comme ça des incursions soudaines de personnages comme ce garçonnet en caleçon qui brandit un colt, c'est selon, mais tout dépend aussi, Arnaud Labelle-Rejoux, du matériau de départ. Oui. Quel a été votre matériau de départ?
Alors le matériau de départ il date de il y a 20 ans ou 30 ans en réalité, parce que j'ai des piles de journaux, des piles de revues qui parfois ont 30 ans, que j'ai collectées et que j'ai gardées sous mon bureau, qui sont là. Et quand je trouve une image curieuse, drôle sur Internet, souvent je la scanne, je la garde, et j'en ai d'autres, j'en ai plein dans une espèce de chemise. Et tout d'un coup, ça m'arrive de les mêler et de les associer sans justification plus que ça. Mais il est vrai qu'il y a une sorte de mémoire en même temps, c'est-à-dire que c'est un peu comme le CDB d'ailleurs de ce point de vue-là, c'est-à-dire je suis nourri par cette culture, la SNER, les enfants du paradis, ouais. Je vous cache pas que ça apparaît souvent dans mon travail, j'ai souvent cette image parce que la figure de la SNER déjà est une figure intéressante, la figure de la SNER dans les enfants du paradis est aussi intéressante.
C'est un beau banni.
Alors lui, oui c'est un beau banni.
Ça ne peut quand même pas finir sous la main d'un bourreau de province.
Voilà. Donc le côté... Et Marcel Errand, d'ailleurs, est génial aussi. Cette question aussi de la mémoire et de l'acquis culturel, etc., je ne cache pas du tout d'où je viens. Je suis plutôt, d'ailleurs, d'une culture, on va dire, d'autodidacte, d'une certaine manière. C'est-à-dire, c'est la curiosité qui a nourri mon travail, et c'est les liens entre ces choses, les lectures, les films, la musique, beaucoup la musique aussi, qui font que ça fait une sorte de pot-pourri. C'est un pot-pourri ou c'est un fourre-tout, hein, qui fonctionne comme une espèce de machine permanente. Alors je ne cache pas, comme disait l'autre, l'âge du capitaine, j'ai pas 20 ans, voilà, c'est vrai que c'est nourri de choses qui parfois sont un peu anciennes, un peu culturelles, un peu voilà.
Mais Arnaud Labelle-Rojou, je pense aussi que le principe du collage, en tout cas un des principes du collage, c'est la rencontre, c'est de mettre ensemble des éléments ou des objets qui a priori n'auraient pas lieu d'être. Alors par exemple, derrière nous, là, je vois, je ne sais pas quel nain de S, mais je crois que c'est Simplet. Il y a Marcel Proust aussi qui n'est pas très loin. Est-ce que le collage ne vous permet pas aussi de décrire pleinement votre univers, c'est-à-dire à la fois votre intérêt pour la culture populaire et la culture savante, sans aucune hiérarchie, puisque tout le monde est au même niveau?
C'est exactement ça. Mais sauf que, moi, je dirais pas France Gall égale Shakespeare, c'est pas la question. C'est que tout ça, ça appartient à mon univers. Par ailleurs, une des dimensions aussi qui compte, c'est que je me suis rendu compte, alors ça c'est biographique, mais les gens qui ont vraiment compté dans ma formation, si j'ose dire, des gens comme William Burroughs avec le cut-up, ou vraiment très tôt, quand j'ai commencé à écrire, j'ai écrit sous forme de cut-up. J'ai lu Pélieu et tout ça, ça m'a beaucoup influencé. Et dans l'art, c'était quelqu'un comme Rauschenberg avec le combined painting, c'est-à-dire le fait effectivement d'associer des choses. Alors ça pouvait même associer en trois dimensions, comme on va le voir là, ou associer en deux dimensions, c'est-à-dire que tout est manipulable, et mon plaisir, c'est de manipuler des choses qui parfois font hiatus plutôt que quelque chose qui vont dans un sens de d'unité. Non, c'est la discontinuité, par exemple, fait partie du collage, en fait.
Alors, à la différence de l'eau forte, de la lithographie ou de la peinture à l'huile, le collage, tout le monde peut en faire. C'est de loin l'activité la plus ouverte, comme ça, elle est disponible. Nicolas Surlapierre, vous faites des collages ?
Oui, je fais constamment des collages. En fait, une exposition, c'est un collage, en fait. C'est ce qui m'intéresse aussi énormément dans cette pièce. Je rappellerai d'ailleurs que cette pièce, SMS, était vraiment la base, en fait, de l'exposition. Je voulais absolument qu'on présente cette pièce acquise par le Centre Georges Pompidou. Dans un texte, Arnaud donne cette belle définition de cette pièce. C'est dans un texte qui s'appelle « Plénitude du fragment », enfin, en tous les cas, un entretien avec Camille Saint-Jacques. Il dit que c'est sa pièce la plus muséale. Parce que, selon moi, il est en train de nous livrer une histoire de l'art, une histoire des formes, une histoire des avant-gardes qui se fait au montage. C'est-à-dire qu'on est constamment en train de couper parce qu'on a des manques, parce qu'on est obligé de remettre ensemble des éléments, et justement pour que le travail du sens, le travail de la contemplation, le travail aussi tout simplement de l'activation du regard puisse avoir lieu. Et c'est une pièce qui me touche beaucoup, et d'ailleurs on pourrait dire en quelque sorte, reprenant les mots de Gillot d'Orfles, qu'on est là dans la pièce qui parle de l'intervalle perdu. Parce que ce qu'on fait dans une exposition, c'est de raconter cet intervalle perdu, c'est-à-dire qu'on va aussi bien de General Heidi à Ketty La Rocca ou encore à d'autres éléments. Et ça me plaît beaucoup, il y a cet univers. Et d'ailleurs, Arnaud cite deux grandes références à travers, peut-être un peu sérieux, je m'en excuse, mais il y a deux grandes références qui est une sorte de musée imaginaire possible, mais pour les avant-gardes, en quelque sorte, c'est-à-dire des œuvres qui normalement, ou des fragments qui ne pourraient pas se rencontrer, et justement c'est notre rôle dans les expositions de faire se rencontrer, faire des rencontres impossibles, en fait, d'essayer de coller ensemble des personnes, des formes, des questions qui normalement ne devraient jamais rencontrer. Et puis il fait une référence, on le trouve très clairement dans un collage, à selon moi un des grands maîtres du collage avant l'heure, ou quasiment avant l'heure, même s'il en existait déjà, qui est Abi Warburg avec son atlas Mnemosyne.
Sans oublier, bien sûr, le docteur Frankenstein, qui est sans doute le plus grand collagiste qu'on puisse imaginer, qui s'incarne aussi vite par des moyens très divers, que ce soit l'électricité, la science, mais tout ça dans un espoir psychique, et qui est peut-être l'œuvre manifeste d'Arnaud SMS, qui est la plus Frankensteinisée en termes de manifeste. En fait, c'est le mode d'emploi sans doute de la pensée d'Arnaud Labelle-Rojou ici.
Frankenstein, ça me fait penser à Hulk et j'ai pas besoin de me justifier puisqu'on est dans la pensée du collage et que par association d'idées, je ne sais pas pourquoi, ça me fait penser à Hulk et je crois que Hulk nous attend dans la salle suivante. Un Hulk, bulburisé, je ne sais pas si ce mot existe, en forme de brocoli, juste sur notre gauche. Donc si je devais le décrire, c'est une sculpture avec une déclinaison de vert absolument remarquable, du vert le plus tendre au vert foncé, peut-être plus du côté du brocoli. Et sur un mur rouge, je vois écrit en lettres noires « Monsieur Brocoli, plus fort que Hulk ». Donc nous sommes dans la troisième et dernière salle de l'exposition qui s'appelle « Plus plus overmore ». Je pense qu'on est un petit peu devant une métaphore très concrète du « over ».
Mais ben là, ça me fait penser au Beethoven de Mayol ou de Bourdelle. C'est le Beethoven de Bourdelle qu'on aurait oublié au micro-ondes. Qu'en pensez-vous, Arnaud Labelle-Rojou?
Ça me paraît très très bien. C'est ça, si on veut. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est effectivement la mousse polyuréthane, alors, qui est une matière que j'affectionne, parce que c'est une transformation permanente, justement. C'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas vraiment. En tout cas, moi, je ne le maîtrise pas vraiment. Ça se répand, ça gonfle, ça prend une forme. Et tout d'un coup, que j'ai fait cette forme, avec ce bras, comme ça, qui apparaissait, j'ai vu un être apparaître, comme ça, comme dans les films de fantastiques, comme ça. Et j'avais à côté de moi, pour travailler, un masque de Schwarzenegger que j'ai collé dessus, que vous reconnaissez peut-être, un contre-masque en réalité de Schwarzenegger. Et donc, tout d'un coup, ça m'est apparu comme étant une créature, un peu comme la créature du Lagon Noir, justement, une créature surgissant, mais de quoi? D'un peut-être d'une purée de brocoli, justement. Voilà, un truc qui sort comme ça. Voilà. Donc, alors, ça peut être. Après, on peut voir Mayol, si on veut. On peut voir Rodin. On peut voir la vraie grande sculpture. Mais ça vient plutôt d'une purée de brocoli, quoi.
Alors, il y a beaucoup d'inscriptions, de mots, de graphismes tracés à la main. Arnaud Labelle-Rojou, donc là aussi vous avez tout un rapport avec la place et à la fois le graffiti, le tag, le message codé, c'est quoi tous ces mots?
Non, je dirais pas le tag, parce que c'est écrit presque scolairement, en lettres bâton. Ça n'a pas de volonté de plastique, réellement plastique. C'est plutôt des slogans, c'est plutôt des morales, des jeux de mots parfois. Faut utiliser Schopenhauer, c'est clair, quoi. Y a pas à tourner autour du pot. Mais c'est des sortes d'instants aussi, le langage est très présent dans mon travail puisque, comme je travaille pour association d'idées beaucoup, à des moments, il m'arrive de penser une phrase et je l'écris tout de suite. Et voilà, une maraca, c'est moins totalitaire que deux, ça me paraît évident aussi. Et puis il y en a d'autres qui sont plutôt des jeux de mots. Et il y en a d'autres qui sont plutôt des constatations. Revers de fortune, vivez en pagne, c'est évident aussi. Donc, ça vient comme ça, mais voilà, ne pas confondre le rase-botte et épilation pubienne. Voilà, je vois mal ça sur des murs. C'est plutôt sur des murs, je veux dire, dans la rue, ça pourrait, mais moi, c'est plutôt dans la circulation des images aussi, c'est-à-dire les mots font image et donc ils participent de l'ensemble.
Alors, je vois notamment « Redécouvrons Claudel et Mauriac et mourons comme des saints ». C'est un peu voir Naples et mourir de la littérature catholique, Arnaud Labelle-Rojou.
Oui, c'est ça, exactement. C'est exactement ça. C'est-à-dire que maintenant... qu'on est dans la période où on est, je pense qu'il faut revenir effectivement à ces auteurs, hein, on pourrait dire aussi d'autres, mais avant, Léon Blois ou d'autres peut-être, pour être sûr de mourir comme des saints.
Voilà une formule, un propos qui va plaire à sa grandeur, l'archevêque de Reims, qui est un de nos auditeurs. Je l'apprends à nos autres auditeurs.
On peut peut-être s'interroger sur le titre, « Plus plus ». Overmore, en quoi ce titre est représentatif de cette troisième et dernière salle dans laquelle nous sommes? Alors, nous qui sommes sur place, on a eu une petite idée, c'est qu'il y a une abondance de choses à voir, de sculptures. François, vous avez parlé en effet de ces tableaux avec des phrases qui sont écrites, mais enfin, nous avons une sphinge derrière nous, mais d'un genre un peu bizarre. Nous avons une main rouge avec des êtres, des clowns qui sont accrochés sur cette main qui est suspendu. Je vois Marcel Duchamp, je vois Dali aussi qui représentait aussi bien donc des sculptures que des peintures, que des phrases. Le lien, c'est le plus, tout est plus ici.
En réalité, je crois que au début, j'avais été désarçonné par ce terme d'Overmore, parce que ça veut dire plus aussi. Et puis, en travaillant un peu sur le terme, en le mémorisant, en y réfléchissant, je me suis rendu compte que ça voulait dire un peu aussi surplus. Et c'est ce terme de surplus qui m'a particulièrement frappé, particulièrement intéressé. Le surplus, comme on est dans le surplus, hein, les surplus où on achète des vêtements, qui ont, généralement d'ailleurs c'est plutôt des surplus humanitaires, mais peu importe, et qui nous renvoie à l'imaginaire de la seconde main. C'est-à-dire qu'on a quelque chose comme ça chez Arnaud d'appropriation de ce qui s'est fait, on va dire depuis les années 50 jusqu'à nos jours, et je mêle le tout dans un univers qui est très Luna Park, hein, qui a aussi cette ambiance, parce qu'il y a du rire, il y a cette espèce de rire, et il y a ce rire qui est lié à l'humour noir. Et je crois que la beauté de cette salle, son énigme aussi, entre une extrême drôlerie et un extrême sérieux, c'est cette façon de digérer les références. Et d'ailleurs, c'est pas tout à fait un hasard, j'aime beaucoup quand je présente la salle, je suis à côté de cet Imperator, hein, donc les références évidemment à Uburoi, dont un des premiers termes, c'est merdre aussi, c'est cette question aussi de la contrepétrie, de la scatologie. On est là aussi pour digérer. Et on oscille constamment entre digestion et indigestion. Et c'est ces références qui luttent dans cet espace avec beaucoup de drôlerie, parce que finalement, on essaye à partir des mouvements, à partir des néo-avant-gardes, de mettre ça ensemble. Et quand le discours devient trop sérieux, on a toujours un slogan ou un aphorisme qui nous permet de faire une pirouette et de passer dans un autre univers. Mais cette dimension de l'humour noir, en référence aussi à ce qu'elle a pu signifier dans le surréalisme et dans le post-surréalisme, pour moi est tout à fait essentiel, et une tonalité très forte de cette dernière salle qui est pensée comme le surplus, comme il y aura un surplus dans l'atelier. Vous voyez, chaque salle a sa tonalité entre l'accrochage très muséal et très beau, très pur de la salle centrale SMS, et puis ici, où on peut venir en quelque sorte choisir la forme, la référence qui tournoie le mieux dans notre imaginaire.
Oui, moi c'est très brillant. J'ai rien à ajouter, si ce n'est peut-être pour signifier que cet ensemble-là, avec la main rouge, la main du diable, comme je l'ai appelé, qui évidemment fait référence aussi à une culture populaire, hein, c'est comme une enseigne cette main. En réalité, j'avais conçu, et c'est pour ça que j'ai voulu montrer cet ensemble, pour le Centre Pompidou, au moment d'une exposition qui s'appelait « Le surréalisme et l'objet », et que, effectivement, c'est clairement lié aussi au surréalisme. Donc, il y a le mélange qui est patent, lisible, en tant que la culture populaire qui mêle la culture savante, mais aussi le côté un peu ésotérique, le côté breton un peu de la chose, avec les tableaux magiques qui sont là, et le côté, je dirais, en effet, comme sérieux, faussement sérieux ou sérieux en apparence, et en réalité avec des espèces de savonnettes qui sont glissées pour qu'on y échappe. Hein. Alors il y a un dessin qui explique assez bien, qui est un espèce de schéma à gauche là, que l'on voit là, qui met en circulation toutes les références là encore, comme a parlé Nicolas Serlapierre, et qui montre qu'en réalité même le surréalisme n'est qu'un des moteurs en réalité, parce qu'il y a beaucoup d'autres choses. Mais c'est vrai que si on voit le rapport à, par exemple, Staline qui est là, c'est-à-dire l'ours Koba qui est là en sculpture, ou le renard qui porte la tête du Caravage, on échappe quand même au surréalisme littéral, encore que la raison de Koba, c'est évidemment la relation du surréalisme au marxisme, ça c'est clair.
Moi, je serais quand même curieuse, Xavier Bousseron, vous qui avez un compagnonnage sur une longue durée avec Arnaud Labelle-Rojou, quand vous êtes ici, qu'est-ce qui résonne le plus en vous, parmi toutes ces pièces ?
C'est, même si on se connaît depuis très longtemps, mais c'est toujours ces affinités qui sont très mystérieuses. Et ça raconte aussi beaucoup le mystère de l'inspiration dont on craint à tous les endroits de l'art ou même de l'existence, sans doute. Et peut-être que la grande machine de l'inspiration est une espèce de brocante aussi constituée d'énormément de cochonneries. Et ces cochonneries-là, elles ont un sens, au fond. Et que le grand travail, peut-être, de n'importe quel type d'artiste, si on peut appeler ça comme ça, c'est de mener l'enquête autour de cette espèce de brocante, en fait. De dire d'où ça vient, comment ça s'agence, pourquoi, malgré tout et irrémédiablement, ça a toujours un lien. On est pris dans... Il n'y a aucune chance de s'en sortir, déjà. Et on est pris dans un piège qui est digne de la caverne d'Ali Baba aussi.
Mais quand vous voyez par exemple cette salle, est-ce que vous y voyez un portrait de votre ami Arnaud Labelle-Rojou ?
On a l'amitié très pudique, donc. Mais je ne sais pas si c'est vraiment un portrait, parce que je ne sais pas si c'est pas la déclaration d'une personnalité ou de quelque... Mais il y a le portrait d'une pensée en tout cas. Savoir si elle est réelle, je n'en sais rien.
Et dans cette pensée, est-ce qu'il y a ce qui me semble être quand même un des grands fils rouges de l'exposition et aussi du travail d'Arnaud Labelle-Rojou, c'est ce principe du collage, ouais. De mettre à nouveau côte à côte des choses qui a priori ne vont pas ensemble, mais qui par la force de l'art, tout à coup, font corps ensemble.
Ça fait corps ensemble. Mais je sais pas si c'est inconscient, mais par exemple Hulk... Quand on connaît un peu la genèse de Bruce Banner, comment il s'est transformé en Hulk, c'est déjà lui-même un collage. C'est-à-dire que c'est vraiment le collage de deux personnalités qui sont complètement distinctes. Et Bruce Banner est un banni. Enfin, il s'appelle Banner, mais c'est un banni. Il ne fait que fuir cette chose qui est Hulk et qui est en lui. Donc, moi, une chose dont j'ai toujours été persuadé, qui est sans doute un tabou, c'est qu'il y a, au fond de ce tiroir-là, qui est l'œuvre d'Arnaud, il y a un monstre. Et ce monstre, c'est pas complètement le problème direct, mais c'est la question première.
Alors côté monstre, il y a une citation du tableau de Magritte sur le Marquis de Sade, là, qui est un château à la tête d'une roche. Oui. Donc le Marquis de Sade, comme monstre et comme banni, ça se pose là. Je pense, Arnaud Labelle-Rojou, en voyant cette exposition, nous sommes là à la fin de notre déambulation, à cette phrase, à cette parole que Boris Bergman avait écrite pour Alain Bashung. Ce soir-là, Dieu avait mis son kilt. On a l'impression qu'avec vous, Dieu met un kilt, que tout est littéralement désassigné. On enlève les flèches, les obligations de circuler, les sens interdits, les clignotants, et que là, tout est ouvert. C'est la grande, une espèce de grande parade. L'imagination devient fric.
Ah oui, c'est ça, mais je ne pouvais pas le dire mieux, mais je ne pouvais pas le dire surtout, parce que quand le kilt ou cette sculpture, par exemple, cette sculpture, je trouve cet objet que vous voyez qui fait un très beau plastron, en fait c'est un slip d'une danseuse du carnaval de Nice, hein, que j'avais trouvé. Et à partir de ça, j'ai construit quelque chose. Alors, c'est pas Dieu a mis son kilt, mais cet objet devient une sorte de point central pour construire quelque chose autour. Et j'ai construit cette sculpture et avec des bouts d'un mannequin de vitrine que j'ai recouvert plus ou moins de mousse polyuréthane. Et après, je lui ai mis un voile qui est en fait du boulé, hein, du plastique boulé pour envelopper les œuvres là. Et j'y ai vu tout de suite, en fait, chez Razade, quoi. Hein. J'ai vu tout de suite chez Razade. J'ai vu l'Orient de pacotille. J'ai vu, alors qu'il n'y a rien d'oriental dedans. Alors, je ne sais pas si Dieu a mis son kilt ou si c'est l'inverse. C'est-à-dire que... Ou l'inverse ou le complément. C'est-à-dire que... Alors, ça rejoint le collage, hein, évidemment. C'est le... la façon de parasiter de l'intérieur quelque chose que l'on doit voir en plusieurs temps. Et c'est à l'œuvre, c'est l'association d'idées qui est visible. Alors je ne sais pas si c'est très patent, si c'est très évident, mais pour moi c'est presque une évidence. Je l'ai appelé et elle se mit à danser. Quoi. Là, c'est Flaubert, là, ça devient Flaubert, ça devient, c'est une phrase de Flaubert. Elle se mit à danser. Donc voilà, je tire le fil et en tirant le fil, je découvre plein de choses. Et à l'arrivée, je ne sais pas si c'est. Vous avez parlé de Magritte à juste titre, mais je n'y ai pas pensé un instant. J'y ai pas pensé un instant. J'ai fait cette espèce de montagne. Et c'est vrai qu'il y a le rocher de Magritte avec là. Et j'y n'y ai pas pensé un instant. Et pourtant, il y a le corbeau. Et pourtant, il y a... c'est les associations d'idées qui parlent pour moi.
J'aimerais juste revenir sur la figure du monstre. Est-ce qu'il y a un monstre en vous ?
Oh, j'en suis sûr, oui. J'en suis sûr. Il a raison.
Merci Arnaud Labelle-Rejoux, à la fois pour cette exposition qui nous a permis de prendre un grand bain moussant et mousseux d'imprévus, d'imagination, de folie et de mauvais genre. Et puis lisez surtout, je parle à nos auditeurs, Le culte des bannis, c'est aux éditions Les Presses du Réel. Merci Nicolas Surlapierre.
Merci à vous pour
accueillir ce moment. Et puis à bientôt Xavier Boussiron pour d'autres aventures.
À très vite.
On peut finir sur une des phrases qui est là sous nos yeux, l'inconscient crève les yeux.
Voilà, l'exposition Voyez-vous ça, point d'exclamation, est visible au Macval à Vitry-sur-Seine depuis le 15 novembre et jusqu'au 15 février 2026. Chronique maintenant dans Mauvais Genre, l'almanach de l'étrange.
Il y a des artistes en quête de bravoure qui sortent de l'ordinaire, comme Pauline Ripp, capable de chevaucher le monstre du Loch Ness ou même le Yeti grâce à des harnachements qu'elle a conçus spécialement pour eux. Et pour son exposition La Tannerie Fantastique, elle a créé deux selles, deux objets rationnels, fonctionnels, leurs courbes et tailles correspondant exactement aux mesures prêtées à ces deux créatures mythiques. Une selle d'un beau bleu pouvant parfaitement épouser le cou du Loch Ness et une autre d'un marron soutenu, placé sur les épaules du Yeti afin de mieux le monter. Alors bien sûr, les plus pragmatiques d'entre vous penseront « Mais à quoi ça sert de fabriquer des objets pour des êtres dont l'existence n'a jamais été prouvée ?» Eh bien, tout simplement, à donner vie à ces chimères. En se basant sur des faits considérés comme irrationnels, Pauline Ripp rend visible ce qui jusqu'alors paraissait appartenir à l'invisible. Rien d'étonnant pour une jeune femme qui a grandi près de la forêt de Brocéliande, où existe le tombeau de Merlin l'Enchanteur, tombe réelle pour un personnage de légende. Et c'est un des grands talents de Pauline Ripp, artiste designeuse qui se définit elle-même comme menant des recherches sur des savoirs ignorés, moqués, marginalisés, irrationnels, voire faux. Elle crée des objets concrets à partir de récits fictionnels, comme par exemple des chaussures qu'elle a fabriquées pour partir à la recherche de Bigfoot, l'homme sauvage dont on entend le cri dans une exposition qu'elle avait intitulée « Lowfoot ». Plus récemment, elle s'est passionnée pour la récolte de la rosée du matin à travers un projet artistique qui mêle design, artisanat et narration. Après avoir lu les très complètes encyclopédies de Pierre Dubois, l'elficologue, c'est-à-dire grand spécialiste des elfes, Pauline Ripp a découvert que la rosée du matin était un mets particulièrement apprécié des elfes. Un séjour en Islande lui apprend que 54% des Islandais croient en l'existence de ces petits êtres, que certains lieux y sont classés réserves protégées en raison de la présence supposée d'elfes, qu'avant de construire un bâtiment ou une route, les Islandais vérifient d'abord si la zone abrite des elfes. D'autres recherches lui apprennent qu'aux Pays-Bas, des habitants pratiquaient la marche à pied, nus dans la rosée du matin, la rosée possédant des vertus curatives, et que les alchimistes recueillaient la rosée du matin dans leur quête de la pierre philosophale. Et à partir de ces récits, elle crée alors des costumes, en lin brodé aux longues manches qu'on laisse traîner dans l'herbe mouillée afin de les essorer dans des vases qu'elle fabrique elle-même. Un projet qui, à travers objets, documents et fictions, veut sensibiliser le public aux questions environnementales de l'eau, apportant de la poésie, du rêve et de l'étrange. Son objectif, soumettre la récolte de la rosée du matin à l'inscription du patrimoine culturel immatériel à l'UNESCO à travers un dossier qu'elle est en train de monter pour 2040. Alors promis, je vous en donnerai des nouvelles. Mais en attendant, son projet Elficologie, la récolte de la rosée du matin a reçu le prix Koal spécial du jury et sera exposé du 12 décembre au 10 janvier dans le cadre de l'exposition Sans réserve des prix Koal au Musée de la chasse et de la nature à Paris, à retrouver ensuite de mai à septembre prochain dans l'exposition collective Coalition Odidam à Bayonne. Et toute l'actualité de Pauline Rip est à retrouver sur la page de l'Almanach de l'étrange.
Merci Céline, on passe maintenant à vous, Chandra Rose, avec Sao Ishikawa, la bossue.
Oui, alors c'est la lauréate du Goncourt japonais, le prix Akutagawa, lauréate en 2023. La bossue nous plonge tout de suite dans une discussion en ligne à propos d'un happening bar, un H-bar, comme ça s'appelle au Japon, des sex clubs. Il y a un échange avec un trip à trois entre un jeune commercial assez trentenaire, bien de sa personne, une étudiante de CBG, style présentatrice télé avec une poitrine XL. Et en fait, tout ça, on est avec une scène aussi de préservatif, une pluie de préservatif qui tombe du plafond. Et puis tout d'un coup, on bute sur des mots, cathéter, mucosité, canule, trachéale. On se rend compte que finalement, la personne qui écrit, c'est sous le clavier d'une certaine Chaka, qui est narratrice de ce court roman, cinglant. Elle écrit un teen's love, une fiction teen's love, c'est-à-dire une fiction d'ado pornographique, et en fait, elle est handicapée. Et donc, c'est tout à fait dérangeant, parce qu'au début, on est dans cette histoire, et puis après, elle parle, et puis elle est handicapée, elle est riche, une riche héritière, lourdement handicapée. Elle est comme son autrice, l'autrice du livre, elle souffre d'une maladie musculaire congénitale qui la condamne à un fauteuil roulant. Et là, disons, la monstresse bossue, comme elle s'appelle elle-même, elle brime un peu son auxiliaire de vie. Elle lui dit qu'elle aurait tellement aimé travailler chez McDonald's ou des choses comme ça. Il a pas d'argent. Et puis elle dit surtout quelque chose d'horrible, horrible. Elle le sait que c'est inflammable. Elle dit, moi, mes fonctions génitales ne sont pas du tout affectées par mon handicap. J'aimerais tomber enceinte et avorter une fois. Alors là, ça, c'est quand même vertigineux comme genre de phrase. C'est très provocateur. Et c'est, en fait, le livre de Sao Ishikawa est extrêmement, est très cinglant et très dur. Et en même temps, nous pose des questions sur le handicap, sur la vie, sur l'avortement. Bien sûr, c'est pas quelque chose qui est pour ou contre l'IVG. C'est juste le fait de réfléchir à cette histoire-là. Et quand elle dit, j'aimerais tomber enceinte juste une seule fois et avorter comme une humaine normale. Alors là, c'est vrai que ça fait vraiment réfléchir. Alors, je conseille ce livre, donc La Bossue d'Ishikawa, très bien traduit par de Patrick Honoré. Et vraiment, on est plongé dans... Alors, c'est un court roman, c'est très incisif, et c'est très provocateur, et c'est très contemporain. C'est vraiment très dérangeant, mais vraiment essentiel.
Mais nous sommes un mauvais genre. Merci à tous deux. Donc, je rappelle que Pauline Rip, l'Elficologie, est visible au Musée de la chasse et de la nature à Paris jusqu'au 10 janvier. Et puis donc, La Bossue, dont on vient de parler, Sao Ishikawa, c'est aux éditions Globe. Toute l'équipe de Mauvais Genre, Laurent Polleret, Raphaël Rousseau, Claire Poissignon, Céline Duchesnay, Claire-Martin Dugard, Chaume Rose et François Angelier vous remercie d'avoir suivi Mauvais Genre. On se retrouve samedi prochain, bien évidemment, avec Philippe Rouillet et Sixtine Audebert, et nous diffuserons un grand entretien avec la romancière et cinéaste Marina Devant, dont on sort en Blu-ray dans ma peau chez Pulse Vidéo.